une idée, quelques mots et de la rage autour. www.libradio.org.
Alors, nous nous intéressons aujourd'hui à une utopie concrète qui eut cours en 2007, ici, sous nos fenêtres, dans le parc contigu de l'espace autogéré, l'ancienne Dolce Vita pour les boomers de passage. Cette utopie aspirait à questionner le logement, les matériaux dont on se sert, leur provenance et proximité, leur impact lorsque la construction change ou se déplace ou disparaît. Une manière douce d'habiter la Terre qui ni ne la blesse ni ne l'outrage, à l'exact opposé des assassins de Holcim, les bétonneurs meurtriers de la famille Schmidheini, milliardaires et assassins de plus de 3000 personnes en Italie et en Suisse. Le frérot, d'ailleurs condamné, n'a bien entendu jamais été incarcéré, réfugié économique au Costa Rica. Ah, mais dans ce sens, c'est ok. Les riches qui assument leurs responsabilités, ne dit-on pas. Ordure. Alors voici que le 24 août 2007 surgit dans le giron de l'espace autogéré à Lausanne la maison de paille par le collectif Stroh de la Balle. Tout sera fait pour échanger, transmettre, apprendre et partager. Un CD-ROM bien vintage, des publications, il en reste que l'on peut commander sur le net sous le libellé La maison de paille de Lausanne par le collectif Stroh de la Balle au prix approximatif de 12 balles de ouinf. Cette volonté d'expérimenter, de se questionner collectivement, de poser à une époque où nous n'étions pas encore cernés par l'urgence climatique, une réflexion sérieuse, méthodique et studieuse, fut balayée d'un revers de la main et d'un coup de bidon d'essence. Nous détestons les institutions, les élus, les tâcherons parlementaires nous font honte et nous donnent des haut-le-cœur. Ici, ils trahirent encore un peu plus leur mandat si possible, s'opposant d'abord par tous les moyens au laboratoire urbain qui avait cours, puis en effaçant toute trace du fait, même si bien entendu la preuve directe ne subsiste pas de cette présence d'hydrocarbures mystérieuses, là où jamais personne, bien entendu, n'en a introduit la moindre goutte. Faudrait pas être si débile. Deux des nôtres furent blessés. La nuit aurait pu conduire à un enfer. Des assassins en puissance ont pété la maison de paille. Nous sommes en 2007 à Lausanne. Voici les prémices des ZAD et des cabanes dans les arbres. Voici les valeurs démocratiques du logement. Rien n'est plus anodin désormais dans ce monde. Nos ennemis nous font face. Il faudra tirer les premiers et viser juste. Alors le cercle de lecture social t'invite à rejoindre ses rangs. Lisons les luttes du passé, éloignées ou proches, celui occulté et critique qui nourrit notre colère quotidienne et notre rage perpétuelle, qui façonne un présent de lutte et d'autres futurs. Rejoins la gang et prends la confiance, nous allons tout changer, quoi qu'il en coûte. Voilà, c'était l'intro et maintenant, eh bien, on va s'occuper aujourd'hui de cette maison de paille, de ce projet de logement alternatif et de tout ce qu'il a conduit, de tous les échanges auxquels il a conduit. À vous la parole, les compas. On y va avec ça, ouais. Qu'est-ce qui commence? Moi, je commence moi. D'accord. Alors en fait, on va commencer avec le journal Moins, le journal de la décroissance. Évidemment, j'avais noté, je ne sais plus où, le numéro, mais...
55.
Merci, le numéro 55 du journal Moins. C'est le courrier des lecteurs. Et en fait, on voulait commencer par ça parce que c'est... On trouvait... Voilà, ça donne un petit peu l'esprit du truc qui finalement n'a pas beaucoup changé. Enfin. Alors, je commence. Pour la sauvegarde des cabanes, c'est une lettre adressée à M. Jean Rosset, inspecteur cantonal des forêts à Lausanne, et elle est signée par J.M. Belair. Cher monsieur, alors que j'étais paresseusement en train de me délecter de ma vie, juché dans les arbres qui me plaisent tant, j'ai découvert avec stupéfaction votre intervention comptée dans l'article du 24 heures du 3 septembre 2021. Je cite, « Même impeccable, les cabanes d'ados n'ont pas leur place en forêt ». Fin de citation. J'ai lu que 5 jeunes garçons avaient entrepris d'expérimenter la construction de cabanes dans les bois, avec l'accord préalable du propriétaire du terrain. Ces jeunes gens semblent avoir fait preuve d'une imagination et d'une débrouillardise que je ne peux qu'admirer et jalouser, et sont parvenus à un résultat qui a laissé pantois leurs parents, émerveillés moi aussi par ce travail d'équipe. J'apprends hélas, dans la suite de l'article, que la construction n'aura pas survécu à votre visite, qui a en effet débouché sur le démantèlement complet d'édites cabanes au prétexte de préserver le bon fonctionnement de l'écosystème forestier.
Si je ne puis qu'être de votre avis sur la nécessité de prévenir une trop grande pression sur notre environnement, je m'interroge néanmoins sur la pertinence d'une telle intervention. En effet, cette manière de faire semble traduire une fois de plus votre faculté à vous penser, vous les humains en dehors de la nature, et opposés à celle-ci. Certains d'entre vous, et dont je crois vous faites partie, moins inconscients que d'autres, lucides quant aux dégâts de l'environnement, considèrent l'ensemble des humains responsables. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ce n'est pas l'entier de votre espèce qui est responsable de notre destruction, mais bien un type précis de société. Cette coupure est renforcée par vos modes de vie de plus en plus urbains et donc éloignés de la nature.
Or, vous le savez aussi bien que moi, pour espérer un futur climatique un peu plus radieux, il est nécessaire que vous, humains, vous rapprochiez de votre environnement et réappreniez à vivre en son sein, afin de retrouver votre lien avec nous, la nature. En empêchant ces jeunes de maintenir leur construction dans la forêt, ne renforcez-vous pas cette cassure entre humains et nature? En les privant d'expérimenter le travail au sein de la nature, n'empêchez-vous pas cette conscience d'appartenir à la nature de se développer? N'êtes-vous pas justement en train d'approfondir le fossé et de creuser ainsi plus efficacement encore notre tombe à toutes, tous? En espérant avoir pu éveiller vos réflexions et pourquoi pas votre envie de vous essayer, vous aussi, à la vie en cabane. Je reste nonchalamment vôtre, J.M. Baillet.
Alors je vais y aller avec le numéro 68, automne 2007. Donc Tocu, présentation pour une société sans racisme, sans sexisme, sans exploitation des humains et de la nature. Le Tocu essaye de relater ce qui se passe dans la mouvance anarchie alternative. Tralala. Faire passer les infos dans et hors de la scène mobilisée. Rendre des comptes des luttes menées, parfois susciter le débat interne en faisant primer la régularité, quitte à être trop sommaire. Les anciens numéros de TOCUB sont consultables sur le site squat.net, où on peut aussi s'inscrire sur la liste de mails. Alors, autoconstruction au centre-ville, titre Habitat autonome et écologique. La construction d'une maison en bottes de paille a commencé vendredi 24 août au centre-ville de Lausanne. Le chantier avance vite, mais les autorités ne le voient pas d'un bon œil. Le collectif Strow de la Balle a occupé une partie utilisée du parc situé derrière l'espace autogéré avenue César Roux 30 pour construire une maison en bottes de paille. Le plancher et les murs de paille ont été montés en 3 jours et la construction du toit est bien avancée grâce aux nombreuses personnes qui sont venues y participer. La municipalité de Lausanne a déjà demandé la démolition avant la fin de la semaine. Quelques jours plus tard, il a fallu empêcher l'entreprise de démolition de démonter la maison. Actuellement, le chantier se poursuit. L'occupation sauvage est aussi une manière de dénoncer la spéculation foncière qui rend possible des prix de terrain supérieurs à 1000 francs le mètre carré. Les banques qui empochent les intérêts, les normes favorables au lobby du béton, bref, à l'impossibilité de construire bon marché. Bizarrement, Lausanne se vante de sa politique de développement durable, fin de citation, comme tout le monde. Mais dès qu'une expérimentation réellement innovante, techniquement et socialement, se crée hors de son contrôle, on tente de la tuer dans l'œuf. Plus on sera de fous et de folle, mieux on réussira à montrer que l'autonomie est possible, que la ville peut échapper à la loi du fric, que l'exploitation de la planète n'est pas une fatalité. Viens, toi aussi, autoconstruire avec nous. Soutenez l'autoconstruction. Actuellement, la maison en paille bénéficie d'un répit. La municipalité prépare un dossier juridique. Nous avons été touchés par le soutien massif que nous avons reçu de toutes parts et comptons sur un tel soutien pour pousser la municipalité à accepter notre présence sur ce terrain. Nous avons donc besoin de votre participation. Voici quelques moyens par lesquels vous pouvez le faire. Aider aux travaux ou à la préparation des repas. Signer notre pétition de soutien, récolter des signatures au marché. Envoyer notre lettre type de soutien ou votre propre lettre à la municipalité pour signifier notre soutien au projet. Devenir membre du comité de soutien ou bien passer nous voir, dire à vos amis de passer. Ça fait toujours plaisir. Documentation disponible sur place. Sauve de la balle communique. Considérant le rôle central de l'habitat dans la notion d'écologie, eikos égale maison en grec, l'exploitation spéculative des prix du terrain, excluant la plupart des alternatives sociales et abordables, le manque durable de logements et l'évaluation des loyers permis notamment par l'adaptation des loyers au prix du marché. La réticence intéressée des milieux immobiliers et bancaires vis-à-vis de la construction écologique, matériaux, économie d'énergie, architecture intégrée à l'environnement biologique. L'imminence de la crise énergétique due à la croissance économique exponentielle et à l'épuisement des ressources fossiles, pic pétrolier. Le changement climatique causé par des émissions de gaz à effet de serre, enfin incontestable, mais toujours pas enrayé. Croissance oblige. L'augmentation générale des nuisances accompagnant ce mode de vie industriel. L'extrême lenteur de l'évolution des pratiques constructives. L'inertie des normes et des lois accentuée par les groupes d'intérêt qui profitent des pratiques actuelles. La dépendance extrême des individus à ces groupes d'intérêt qui les exploitent, notamment dans le domaine de l'immobilier. L'incapacité des institutions à considérer que leur but devrait être de ne plus être nécessaire, c'est-à-dire d'encourager l'autonomie, comme un médecin devrait viser à ne plus avoir de clients, étant persuadé de la nécessité urgente de concevoir des habitats intégrés dans les cycles biologiques, matériaux de construction, eaux usées, excréments et combustibles, comme alternative à ce mode de vie insoutenable. D'une culture d'auto-organisation et d'entraide indépendante, comme fondement de changements sociaux en profondeur. D'acquérir des connaissances et de l'expérience hors du salariat pour libérer les énergies créatives des individus. De la diffusion massive de savoir-faire suffisamment simple pour être accessible à tous et toutes pour la satisfaction autonome des besoins vitaux. Et enfin, de prendre nos vies en main sans la peur permanente de l'insécurité. Nous avons choisi d'occuper ce terrain car l'urgence de la situation considérée ci-dessus ne se résoudra pas en respectant les règles qui y ont amené. D'y construire une maison en bottes de paille enduite de terre et de chaux, soit des matériaux locaux, recyclable et économe en énergie grise. De relier cette maison à une phytoépuration et à des toilettes à compostage pour le traitement biologique des eaux grises et des excréments. De construire sur pilotis, d'éviter de couler la moindre dalle de béton pour n'avoir aucune empreinte définitive sur le terrain. De le faire en ville pour être visible, avoir un maximum d'échanges avec les gens intéressés par les principes d'autonomie et d'écologie radicale. Et enfin, de faire de ce chantier un grand échange de savoir, appuyé par des professionnels en mixité homme-femme avec le moins possible de spécialisation. Je passe la parole à mon camarade.
Alors, TOCUP numéro 69, d'octobre-novembre 2007. Autoconstruction, la maison de paille menacée. La municipalité rompt la trêve, CF TOCUP numéro 68, et donne un ultimatum de 20 jours pour démolir la maison autonome et écologique, dont la construction a débuté le 24 août à l'avenue César Roux. En cas de refus de démolir, le syndic Brella annonce déjà l'évacuation forcée. La municipalité fait miroiter la promesse d'un autre terrain, mais refuse que la maison actuelle soit habitée, même de manière transitoire. Les occupants refusent ce chantage. Tout soutien est bienvenu, en particulier pour participer au chantier et aux différentes actions et activités prévues. D'autres formes de soutien sont bienvenues. Envoyez un courrier des lecteurs aux journaux et parlez autour de vous, ou tout simplement passer et échanger infos et arguments. Programme. Jusqu'au 1er novembre, isolation et installation du chauffage. 2 et 5 novembre, phytoépuration. 6 novembre à 18h, le conseil communal au casino de Montberon, rassemblement et action théâtrale. 10 novembre, fête d'inauguration. Pour se tenir au courant, autoclausanne@no-log.org. Pas sûr que ça marche encore. Réponse à des attaques dans la nuit dans la presse. Le projet n'est pas novateur. J'imagine que c'est M. Olivier Français. M. Français ne sait pas de quoi il parle. Il ne s'est pas intéressé au projet. Il ne s'agit pas d'innovation technologique de pointe, mais d'une combinaison de techniques accessibles qui permettent un habitat réellement respectueux de l'environnement. À notre connaissance, il n'existe pas en Suisse de maison coûtant moins d'un million qui soit aussi cohérente écologique dans sa totalité. L'autoconstruction collective et la récupération de matériaux nous ont permis de réduire les coûts de construction d'un facteur 10, voire presque 100. À l'avenir, ce type d'organisation sera nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux. Il n'existe que 3 ou 4 constructions en terre cuite en Suisse. Le matériau n'y est pas encore homologué. Les constructions contemporaines sur pilotis sont hyper marginales. Des initiatives intelligentes comme Domobile sont bloquées. On coule des tales de béton pour un oui, pour un non. Et la colline du Mormont à Éclepont n'existe bientôt plus grâce à Holcim. Un peu plus tard avec la ZAD, on en a reparlé. La combinaison toilette sèche plus phytoépuration se heurte à l'obligation de raccorder aux égouts et aux réticences de toutes sortes. On peut compter des réalisations sur les doigts de la main. Comment ose-t-on dire que notre projet n'est pas novateur? Si M. Français favorise les travaux publics, Megaloman, M2, Tridel, pour subventionner des entreprises privées, pariant sur une croissance débridée, comme lors des 30 Glorieuses, ils s'abstiennent au moins de nous donner des leçons sur ce qui est novateur. Le projet n'est pas écolo avec leurs eaux usées. Toujours M. Français. L'écologie du tout à l'égout ne nous convainc pas. Même avec une station d'épuration. Celle de Vidy est d'ailleurs pas à même de traiter les micropolluants qui vont ensuite dans le Léman. Les excréments ne sont pas des déchets et ne devraient pas être mélangés à l'eau potable. Ils sont d'une grande valeur pour la terre si on les composte avec des copeaux, comme nous le faisons. Il nous reste effectivement des eaux de lavage à traiter. Nous n'y mettons que des produits biodégradables et nous les enverrons dans notre installation de phytoépuration autonome, dès qu'elle sera prête. L'eau aura ensuite une qualité suffisante pour être rejetée plus bas dans une tranchée drainante, ce que nous vérifierons, quitte à augmenter le nombre de bassins dans le cas contraire. Dans les écosystèmes naturels, le déchet n'existe pas. Ce sont des êtres vivants qui génèrent les polluants. Ce ne sont pas les êtres vivants qui génèrent les polluants, c'est l'industrie. L'écologie est nécessaire, mais elle n'autorise pas toutes les dérives. P. Auberçon. On aimerait faire de l'écologie ou du développement durable en changeant le moins possible l'économie. Les gouvernements soucient de croissance durable pour assurer des profits durables aux actionnaires. Les autorités n'ont agi que frileusement face au changement climatique. Elles commencent à peine à prendre des mesures contraignantes car le pétrole devient cher et menace la croissance. Le baril de pétrole va atteindre les $100 cet hiver. On craint qu'il atteigne $300 d'ici une dizaine d'années. Ceux qui disent aujourd'hui l'écologie est nécessaire parce qu'ils n'ont pas le choix ne se soucient pas en fait de la planète ni de la majorité de ses habitants. Nous ne voulons pas exploiter chaque ressource jusqu'à sa limite ultime, car il restera simplement plus de planète viable d'ici quelques années. Il faut changer la logique de construction, de consommation, de production pour s'approcher d'un respect réel qui passe par une décroissance économique. Alors si l'illégalité de notre démarche constitue une dérive qui va trop loin, ça veut dire que la loi passe avant le débat sur l'avenir. Daniel Brella, chacun doit respecter les lois. Si les lois favorisent la destruction de la planète et la spéculation, il faut les braver. On a convaincu les citoyens d'accepter ce que les propriétaires peuvent pratiquer des loyers abusifs en les adaptant au prix du marché. Personne ne conteste la loi qui permet au prix du terrain d'exploser. Aucune loi ne dissuade d'utiliser des matériaux ultra gourmands en énergie comme le béton. D'autres lois plus intelligentes ne sont pas respectées. Les normes minimales d'isolation des bâtiments ne sont pas respectées. Dans la plupart des bâtiments neufs, on n'hésite pas à déclasser des zones agricoles pour accueillir des multinationales. Amgen, qui finalement a décliné l'offre pour des raisons de concurrence fiscale. Qui dicte les lois? Qui les applique? Et doit-on empêcher l'écologie au nom de l'écologie? Pourquoi ne pas faciliter l'implantation d'habitations complètement intégrées à leur environnement? Intégrer, ça veut dire A. Lier à des cultures, potagers, vergers, champs. B. Pas d'empreinte définitive au sol. Pas de dalle en béton. C. Traitant et recyclant sur place les matières organiques, déchets végétaux, excréments, eaux usées. D. Autonome en énergie. Toujours Daniel Brella. L'expérience est intéressante, mais pas question que quelqu'un y habite. Curieux. La ville a besoin de lieux de vie, pas de musées. Une crise du logement aiguë sévit depuis 2002. Les loyers ne cessent d'augmenter. Les listes d'attente sont longues pour obtenir des logements subventionnés. La ville loge des gens au camping. Nous avons besoin de maîtriser notre habitat. Mais les maisons rénovables par des coopératives sont rares et les prix du terrain rendent cette alternative plus cher qu'une location sur le marché. Dans ce contexte, refuser un habitat à des gens qui s'en sont construits, sur un terrain inutilisé s'oppose au bon sens. L'écologie humaine n'est pas qu'une question de matériaux. Ceci est une expérience d'habitat qui perdrait tout son sens si nous limitions à y mener des activités de jour.
Alors, c'est un article publié dans le TOCUP 71, fin décembre 2007. Il a été rédigé par le collectif Les chercheuses et chercheurs de merde. Donc, le titre est « La maison de paille et quelques réflexions sur la question de la légalité », entre guillemets. L'encadré, c'est « Le 24 août 2007 débutait la construction d'une maison de paille à l'avenue César Roux à Lausanne, juste derrière l'espace autogéré. Érigée en un temps record, cette maison défraie aujourd'hui la chronique. Elle irrite profondément les tenants et tenantes de l'ordre légal capitaliste, qu'ils se prétendent écologiques ou non. Ce texte n'a pas pour objet de se substituer à la parole des occupants et occupantes de la maison de paille. C'est le surgissement de cette maison de paille dans la grisaille quotidienne qui, au contraire, encourage à intervenir, à prendre collectivement la parole, à tâtonner, à déconstruire, à détruire, à construire. Et c'est d'ailleurs parce que les occupants et occupantes ont une parole qui parle à nombre d'entre nous que leur action dérange tant ce brave pouvoir, soi-disant très majoritairement de gauche. Sans cela, il y a belle lurette que la maison de paille aurait été rasée et l'ordre marchand durable et propre sur soi rétabli jusqu'à la prochaine révolte. C'est aussi les réactions hostiles de ceux et celles qui nous gouvernent qui nous poussent à avancer ces quelques réflexions. De la même manière que l'on tente de nous faire travailler plus pour gagner moins, qu'on nous rackette légalement en exigeant de nous le paiement d'un loyer, on cherche à nous dépouiller des mots qui nous permettraient de remettre en cause l'ordre établi. Ainsi, n'est-on plus exploité, mais exclu ou alors collaborateur et collaboratrice d'une entreprise. Aussi, devrions-nous collaborer à notre exploitation. La démocratie participative, c'est tout et toutes collabo. Le développement durable, dans une société capitaliste, c'est toujours et encore le capitalisme. Ce qui frappe surtout dans l'affaire de la maison de paille, c'est l'usage fait par les médias et les politiques du concept de l'égalité. ayant épuisé le registre paternaliste du « c'est dangereux », habilement contré par les occupants et occupantes, leur discours a passé par « c'est bien ce que vous faites, mais c'est pas légal », pour finir en « c'est pas légal tout court ». Une ultime parade avant l'envoi de la flicaille contre la maison de paille. L'écologie hors du cadre bourgeois dans laquelle ils la conçoivent, c'est finalement pas si bien que ça. Il n'y aurait plus qu'une seule forme de pensée, qu'une seule manière d'envisager la vie en société, régie par une égalité ahistorique d'où les antagonismes et les conflits auraient disparu. Des divergences peuvent certes exister, mais pour être, entre guillemets, crédibles aux yeux du pouvoir, uniquement dans le cadre du système. On nous répond qu'il faut changer la loi par des moyens institutionnels qui précisément ne permettent aucun changement et reviennent à légitimer ce que l'on combat. Que ces systèmes soient capitalistes, patriarcales et racistes leur importe peu. N'est-on pas en démocratie ? Mais qu'est-ce que la légalité dans une société patriarcale, raciste et capitaliste ? Ce panégyrique légaliste apparaît ainsi comme l'expression de la volonté collective, du bien-être général et de la paix sociale, dont toute l'harmonie serait brisée par des irresponsables tels que les constructeurs de la maison de paille. Cet argument politique trouve sa force dans la mise en avant de la légitimité et de la neutralité des lois. Mais que cache un tel argument dans le contexte d'une société de plus en plus inégalitaire et discriminatoire ? Par ce discours, on veut nous faire oublier 1. Que loin d'être neutre et universel, la définition de la légalité est historique et sociale et donc tributaire de rapports de pouvoir, et 2. Que son interprétation et son application varient en fonction de la position des personnes concernées. Si la légalité apparaît comme quelque chose de neutre et d'impersonnel, c'est d'abord parce que c'est là son caractère par définition, puisqu'elle correspond au type de domination légale rationnelle, qui s'est peu à peu instauré dans le cadre des sociétés européennes capitalistes. Le contexte de la modernité occidentale, la construction de l'État-nation, la pensée de la rationalité et de l'individu, ainsi que l'émergence d'une économie de type capitaliste, ont vu naître non pas la fin des rapports de pouvoir, mais un nouveau type de domination dont la légitimité est fondée sur les lois incarnées par l'État. Dans ce nouveau régime de pouvoir étatique légal instauré au cours des 18e et 19e siècles en Europe, les formes instituées et légitimes d'assujettissement se sont étatisées. L'expression des rapports de force de la société se règle à travers une instance étatique qui a le monopole et la légitimité de la violence et de la sanction. Les canaux et modes de légitimation du pouvoir se sont simplement déplacés. Ils n'étaient pas effectivement neutres et correspondaient notamment à la configuration des rapports de classe de l'époque, mais se fondaient sur une croyance dans la neutralité et la rationalité de l'État. La légalité n'est donc pas un donné en soi, mais une construction sociale, et chaque société définit ce qui est légal ou illégal, ce qui fait l'objet d'une sanction positive ou négative. La légalité ou au contraire l'illégalité, le crime ou la déviance, dépendent ainsi de rapports de force dans une société donnée à un moment donné. La transgression ou le respect des règles, légales notamment, ainsi que la réaction sociale face à l'un ou l'autre comportement, doivent se comprendre à la lumière du fonctionnement de cette société. Dans une société comme la nôtre, qui fonctionne sur la base de rapports de domination, de classe, de race et de genre, incarnés dans les structures de l'État et en particulier dans les lois, la définition et l'application des normes et des sanctions sont l'expression des intérêts du groupe dominant. C'est pourquoi le secret bancaire ou la spéculation immobilière sont légales, alors que l'occupation de logements vides est illégale. Et si les locataires, les sans-abri ou les squattereuses faisaient et appliquaient les lois, les banques et les spéculateurs seraient des hors-la-loi. Bref, on ne peut pas simplement en remettre à la légalité ou l'illégalité, faisant comme si cette valeur était universelle et neutre. Cela d'autant plus que nous vivons dans un monde où les inégalités, les discriminations et l'exploitation se renforcent sans cesse. La légalité capitaliste, patriarcale, raciste, coloniale peut aller très loin dans l'horreur. La légalité fait aussi partie des systèmes totalitaires. Les démocraties libérales ont instauré des systèmes discriminatoires et répressifs légaux. L'apartheid en Afrique du Sud était légal. La ségrégation raciale aux États-Unis aussi. Dans de tels contextes, ce sont des individus, groupes ou mouvements ayant recours à l'illégalité qui ont permis le changement. Ne l'oublions pas. Qu'en est-il aujourd'hui ? Comment allons-nous faire face au légalisme d'une société dans laquelle le pouvoir et la richesse se concentrent toujours plus ? Rien n'indique que les choses vont être simples. Il est plus aisé de rappeler l'exemple du pasteur ou du garde-frontière cachant ou faisant passer des juifs fuyant l'Allemagne nazie. Il est moins facile aujourd'hui de s'opposer à des renvois forcés de migrants et migrantes. Cela peut actuellement nous conduire devant des tribunaux. Mais peut-être ces actes seront-ils encensés dans 50 ans, Combien de migrants et migrantes seront refoulés, bâillonnés, frappés, tués d'ici là en toute légalité? Que doit-on dire et penser des organes et processus politiques suisses qui décident, par les mécanismes les plus légaux, d'appliquer le pistolet à électrochoc, taser, aux requérants et requérantes d'asile et même aux enfants? Allons-nous laisser faire parce que c'est légal? Le réveil ne sera-t-il pas un peu tardif? En se bornant à invoquer la légalité, on se coupe donc de l'analyse des rapports de pouvoir en amont, de la définition même de la légalité. On évacue aussi la question de l'interprétation et de l'application des lois en fonction de ces mêmes rapports. Il existe ainsi une illégalité légitime, les salaires des femmes inférieurs de 25% à ceux des hommes, les affiches racistes de l'UDC, condamnées par le rapporteur spécial de l'ONU, la politique des deux cercles, héritage de celle des trois cercles, violant la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, etc. Ainsi, face à l'illégalité, le laisser-faire dans certains domaines et dans certaines sphères n'a d'égal que la tolérance zéro dans d'autres. Les pauvres ou les requérants et requérantes d'asile touchant l'aide sociale, les personnes à l'assurance invalidité, AI, et plus généralement en Suisse et ailleurs, toutes les populations paupérisées sont soumises à l'intolérance et au contrôle permanent d'un État non plus social mais pénal. De Londres à New York, de Mexico à Sao Paulo et jusqu'à Genève, le petit délit est hyper criminalisé. Les mendiants et mendiantes, voleurs et voleuses, revendeurs, revendeuses de drogue, travailleuses du sexe sont littéralement traqués. Sans compter que l'on ne cesse de produire de l'illégalité par le biais du durcissement des frontières et des lois en matière d'asile et d'immigration. Si les requérants et requérantes et les étrangers et étrangères souffrent certainement des attaques les plus virulentes et des situations les plus discriminatoires, la criminalisation s'étend. La polémique autour de l'illégalité de la maison de paille en dit long. La pensée critique, dans l'optique d'une mise en pratique, sera-t-elle aussi bientôt illégale ? Soyons tous et toutes des hors-la-loi et rêvons. C'est parce qu'elle transgresse que la maison de paille nous fait rêver. Les lois et règlements valent pour tous, entend-on souvent. Elles sont les mêmes, qu'il s'agisse de projets commerciaux ou non-profit. Pour mettre les lieux autonomes aux normes, il faut investir. Pour investir, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut entrer dans le système marchand. Les autorités demandent que soient suivies des procédures qui ramènent toute critique dans le giron de ce qui était originalement contesté. Les procédures que l'on nous demande de suivre ne sont jamais neutres, elles normalisent. La maison de paille se positionne au-delà de la légalité-illégalité, dans l'utopie. C'est un exemple qui peut nous faire réfléchir plus largement sur notre vision du monde, sur celui que nous voulons construire. D'abord, leurs bâtisseuses et habitantes nous donnent une idée sur la manière concrète de se réapproprier nos vies et de décider ce que l'on veut vivre et comment, de construire nos propres maisons et nos propres normes. C'est une résistance qui va au-delà du mode d'habitat, c'est une résistance de la pensée à celle du consensuellement légal. C'est une manière de dire « votre légalité est terroriste pour l'environnement, les pauvres, les salariés, les migrants-migrantes, les femmes, les handicapés, les locataires. Nous choisissons donc l'illégalité responsable et solidaire. » C'est une manière de renverser les valeurs et de mettre les discours et les acteurs du pouvoir face à leurs propres contradictions. Par ce renversement, ils et elles nous font voir comment se construit ce discours, cette pensée du consensuellement légal, comment on nous amène à accepter les choses entre guillemets comme elles sont, et donc ne plus rien changer, mais aussi comment on peut en sortir. Rompre avec ce ronron de la légalité est possible et nécessaire. Pourquoi l'initiative de la Maison de Paille recueille-t-elle du soutien, une forme d'engouement? Parce qu'on a besoin de cela, un projet en rupture avec la normalité quotidienne. Et son impact symbolique est immense, tel que nous le ressentons en tout cas. C'est l'ouverture du champ des possibles. Et ça marche, on en parle. À quand la prochaine maison de paille? Et si on n'est pas bricoleureuse, une maison de paille dans son quotidien pourra prendre une autre forme. Et à plusieurs, la bricole en tout genre, ça s'apprend. C'est bien ce qui effraie tant les tenants et tenantes de l'ordre, que l'on puisse imaginer se passer d'elle, de leurs experts-expertes, de leur légalité. La question n'est pas d'être dans le cadre de la légalité ou au contraire dans celui de l'illégalité, mais de construire collectivement et solidairement notre avenir, à commencer par notre présent, qui sont à mille lieues d'Agenda 21, du projet Métamorphose et autres City Management. Pour finir, la légalité n'a rien à voir avec la justice sociale. Seules les mortes ne rêvent plus. Collectif, les chercheuses et chercheurs de merde.
Merci beaucoup, c'est un texte magnifique.
Oh, beau ce texte, incroyable.
Ah, t'es d'accord, 2007 quoi.
Alors, Tokup numéro 70, manif pour la maison de paille, 1er décembre 2007, 14h, Palu. Le 24 août passé, nous avons commencé l'autoconstruction d'une maison autonome et écologique sur le terrain inutilisé entre l'avenue César Roux et la rue Saint-Martin. Maison respirante, biodégradable, peu gourmande, autonome en énergie et en eau, respecter le terrain et enrichir le potager au lieu de le polluer. L'autoconstruction comme une réponse radicalement différente au problème du logement. Le choix des matériaux et des techniques écologiques par nécessité de concrétiser les réflexions engagées depuis déjà 40 ans, l'emplacement, la manière, parce que ces problèmes nous concernent tous, toutes, et qu'il y a urgence. L'ultimatum est fixé au 20 novembre. La municipalité veut évacuer et démolir la maison, ne considérant que l'aspect légal. Sous prétexte que le terrain est inconstructible, nous avons recueilli 2000 signatures de soutien. Lausanne, le développement toujours... Lausanne, le développement toujours plus d'énergie consommée, toujours plus de béton. Les loyers ne cessent d'augmenter. Le prix des terrains explose. Pour que les logements ne soient plus une marchandise, il faut oser se l'approprier, oser la créativité. Il n'y a pas de loi pour l'innovation, pas de changement culturel sans transgression. Nous demandons une tolérance pour cet habitat, le temps d'obtenir un autre terrain et d'y construire une maison plus grande, une expérimentation sociale et écologique pour infléchir la fatalité. Les autorités nous refusent tout notre habitat. Elles nient l'urgence pourtant manifeste de prendre acte et d'agir. Pas d'évacuation avant la construction d'une autre maison.
Alors, je vais lire le TOCUP numéro 71, fin décembre 2007. L'agenda, le journal interstitiel de la mouvance anarcha, alterna, intersquad, féministe, antifa, précaire, de Lausanne et d'ailleurs. La revue de l'espace autogéré, en tout cas. Maison de paille, le soutien s'élargit. La manif de soutien à la maison de paille du 1er décembre a été un succès, malgré la pluie. 300 personnes ont participé à la mise aux enchères de mètres carrés le long du parcours, battant des records absolus en termes de spéculation. Une nouvelle devise, le Brelard, a été mise en circulation pour l'occasion. Une bonne occasion d'être visible sur la place publique sans intermédiaire que certains journaux ont détourné pour offrir une tribune au municipal ordurier français. Je cite, « Je trouve scandaleux que des saltimbanques fassent pipi caca dans la nature et s'amusent sur notre terrain en toute illégalité. Ce mouvement n'a rien de sympathique et l'expérience rien de scientifique. » Fin de citation. Monsieur Français, au lieu de proférer des bouffonneries qui montrent son ignorance des toilettes sèches, ferait mieux de s'adonner de temps en temps au noble art de la fabrication d'humus. Le collectif Stroh de la Balle continue depuis plus de 3 mois d'occuper et d'aménager la maison en attendant une reprise des négociations pour un terrain susceptible d'accueillir un projet d'habitat collectif autoconstruit plus important. Un recours contre l'évacuation a été déposé au tribunal administratif, suspendant cette décision de la municipalité jusqu'au 20 décembre, avant quoi elle doit justifier la proportionnalité de priver des gens de leur habitat pour des questions réglementaires. Le comité de soutien s'est maintenant constitué en association de soutien à la maison de paille et compte déjà une 40aine de membres. Il se bat pour un maintien de la maison à son emplacement actuel, allant de pair avec une revalorisation de la parcelle comme zone d'expérimentation didactique. Pour toute info ou proposition, pour rejoindre l'association de soutien, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante autoclolausanne@nolog.org. Bien sûr, ces adresses ne sont plus valides depuis un moment. Pas de déplacement avant un autre emplacement. Pipi caca, autonomie. Et voilà. Alors, il nous reste à lire le numéro 72 du Tokup. C'est le dernier numéro qui va se consacrer à la maison de paille et qui revient un petit peu sur l'événement en faisant une courte synthèse et en faisant le récit eh bien, de l'incendie et de la fin de ce projet. Tokup numéro 72, c'est mars-avril 2008. Incendie de la maison de paille, retour sur les événements. Je fais un premier paragraphe, hein. Ouais. On y va comme ça. Alors, un incendie a ravagé la maison de paille de Lausanne le 21 décembre à 4h du matin. Les deux personnes qui y dormaient ont pu sortir rapidement, brûlées au deuxième degré. Le feu s'est propagé à partir d'un coin de la maison, éloigné du poêle et accessible par en dessous. C'est cet endroit précis que les habitants ont vu brûler en premier. Il présentait un segment de poutre exceptionnellement atteint. Des analyses chimiques mandatées par le collectif ont révélé des traces d'essence à proximité, éléments lourds non volatiles. Aucun produit pétrolier n'étant stocké là avant l'incendie, la seule hypothèse crédible est celle d'un accélérateur placé et enflammé à cet endroit pour incendier la maison.
L'enquête. L'enquête a été instruite dès le premier jour sous la très douteuse forme sommaire qui juridiquement s'applique à des cas bénins. Il n'y a eu aucune expertise scientifique, ni de la police, ni des pompiers. Le juge d'instruction a renoncé à utiliser l'IPSC, police scientifique, et les chiens policiers sous des prétextes fallacieux et absurdes. Une plainte contre inconnu a été déposée quelques jours plus tard. Cependant, le juge n'a pas jugé bon de faire quoi que ce soit, appel à témoins, analyse, avant que le collectif n'annonce dans la presse que ses propres éléments et ne dénonce l'inexistence de l'enquête. Depuis, les seules auditions passées l'ont été sur notre demande. Des prélèvements ont été tardivement effectués par un laboratoire officiel, mais n'ont pas encore été analysés. Autant dire qu'on peine à croire que la justice n'arrive un jour à une conclusion à laquelle elle n'a visiblement pas envie d'aboutir.
Où l'on voit dans quelle irréalité se joue le cirque politicien. Le jour après l'incendie, avec un opportunisme politique à peine masqué et une empathie feinte, le syndic des Brella déclarait maintenir la proposition du terrain au collectif, ici jusqu'alors présenté en sucre pour sortir de la crise, maison de paille. Puis, sautant sur le premier os, à Ronger, une audition pourtant confidentielle de l'enquête. La municipalité crie à l'incompétence et au mensonge pour justifier un revirement total de sa position, en nous insultant au passage. Tentant de discréditer l'entier de la démarche et les compétences des spécialistes qui soutiennent le projet, la municipalité rompt alors toute négociation.
Incendie de la maison de paille, retour sur les événements. Le monde qui sépare les promesses de la ville en matière de logement social et la politique réellement menée a un nom, les profits mafieux ou la paix du logement pour les socialistes. Quand elle clamait que ce n'était que l'illégalité de la maison de paille qui posait problème, ceci est maintenant complètement contredit. Pendant ce temps, le conseil communal se fait du souci, qui va payer ? Le syndic Brella, se voulant rassurant, a demandé des devis à des entreprises privées en attendant que le juge permette le déblaiement. Et le conseil de voter pour que les frais soient à la charge, je cite, des responsables, le cas échéant, à des promoteurs constructeurs, fin de citation. Malgré que Brella l'ait systématiquement omis dans ses déclarations, le collectif s'était, dès le départ, engagé à s'occuper du déblaiement. Le reste concerne l'intervention des pompiers, qui ne peut être imputée aux victimes d'un incendie criminel.
Déblaiement est clair. En une journée, 20 à 30 personnes ont dégagé le terrain, trié et évacué les déchets. Le jour suivant, on a commencé à aménager des terrasses pour les futurs événements. Le soleil, la solidarité et la bonne humeur ont été au rendez-vous, se passant très bien des entreprises et des législateurs pour regagner ce lieu. La paille n'ayant de loin pas été complètement brûlée, contrairement à ce que laissait croire la version médiatisée de la réalité, a été répandue sur le terrain ou entassée pour être compostée. Essayez de faire de même avec une maison en béton.
se rencontrer. Nous n'entendons pas en rester là dans nos interventions urbaines. Et nous allons commencer par fêter la réappropriation de ce terrain, le samedi 19 avril. Nous voulons retrouver cet incroyable lieu de rencontre qu'était la maison de paille. Faire revivre le jardin potager, organiser des projections, etc. Une exposition est en préparation pour cette occasion, ainsi que la reproduction d'informations sur l'autoconstruction et les techniques.
Écologique.
Merci.
Soutien nécessaire. Depuis septembre 2007, un comité de soutien s'est formé pour intervenir en faveur de l'expérience d'autoconstruction en paille à l'avenue César Roux. En novembre, le comité s'est constitué en association à laquelle toute personne qui adhère à la démarche est bienvenue. L'incendie ne signifie pas que le soutien se termine. Au contraire, outre la couverture des frais judiciaires du collectif, l'association s'engage en faveur de futurs projets d'écologie radicale, du réaménagement du terrain, d'une publication sur l'expérience réalisée, de la critique de l'urbanisme et de la promotion de l'autoconstruction.
Succès de la conférence. L'association de soutien à la maison de paille a organisé le 1er mars une conférence sur la construction en bottes de paille avec l'architecte Werner Schmidt et l'ingénieur Peter Braun qui ont réalisé 11 constructions en paille en Suisse et en Italie. Environ 250 personnes y ont assisté avec grand intérêt. La conférence a montré que c'est une technique performante et crédible, que le collectif Strohdlabal a réussi à s'approprier en autoconstruction, presque sans spécialisation. Au-delà de l'intérêt du matériau paille lui-même, on s'approche à travers ces diverses rencontres de la création possible de réseaux d'autoconstruction écologique en Suisse romande.
Remorque incendiée. Le soir du 1er mars, les bottes de paille qui avaient été placées en ville pour annoncer la conférence, puis rassemblées sur la remorque d'une voiture, ont été incendiées pendant que conférencier et organisateur Tris se restaurait. La remorque a été détruite et l'arrière de la voiture endommagée. Difficile de dire s'il s'agissait d'un acte gratuit ou d'un nouvel essai d'intimidation.
Voilà, merci compagnon et compagne pour le CLS. On se retrouve dès que possible pour des prochains sujets. Et rappelez-vous que écouter le passé, c'est enrager le présent et changer les futurs. Ciao.
Ciao.
Ciao.